D'abord, bonjour à tous et bienvenue. Thierry Breton, vous êtes en charge de l'immense secteur du marché intérieur, de la stratégie de l'Europe. Et je pense que ça convient parfaitement à votre créativité, à votre énergie, oui, et à votre principe de dire la vérité. Alors aujourd'hui, les Français, comme la plupart des Européens, sont inquiets parce qu'ils voient, comme on l'a dit encore tout à l'heure, les conséquences de la guerre d'Ukraine chez eux. Ils voient les conséquences sur leur vie de tous les jours, sur leur pouvoir d'achat. Et en plus maintenant, mais c'est momentané, on l'espère, les orages. Est-ce que vous dites aux Européens, vous nous dites, il y a un changement d'époque, serrez les ceintures.
Les changements que vous venez d'évoquer sont de différentes natures. Ça n'aura pas échappé à nos auditeurs. Il y a évidemment d'abord le changement climatique. Et c'est celui qui effectivement a intéressé nos compatriotes, mais aussi un nombre important de nos concitoyens européens. C'est vrai que le changement climatique, il est à l'œuvre. Et on le voit tous les jours. Et donc il y a cette urgence, effectivement, d'atteindre, vous savez, notre objectif, l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. On sait, de façon certaine, scientifique, avérée, il n'y a plus de climato-sceptiques, je pense, désormais, que, voilà, le réchauffement climatique, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, eh bien ça provoque ce qu'on est en train de vivre. Donc, oui, on est dans cette situation d'urgence. Et puis, il y a d'autres éléments. Oui, alors, on ne mélange pas tout. Il y a effectivement la guerre, il y a eu le Covid, il y a la dépendance de nos chaînes de valeur. Donc, voilà, on est bien conscient.
Comme j'ai dit, l'époque change.
Oui, on est conscient que, vous savez, on avait déjà cette conscience, je crois qu'on peut le dire, avec la crise tellement inédite que nous avons vécue, celle du Covid. On a vu qu'on était dépendant, on a vu qu'il fallait reconquérir notre souveraineté dans bien des domaines. Ça a été fait avec les vaccins, vous vous en souvenez. Je m'en suis occupé et ça a été un combat de tous les jours. Mais, qui lui dit, du reste, Jean-Pierre Elkabbach, en l'espace de quelques mois, l'Europe est devenue la pharmacie du monde. C'est le continent qui a fabriqué le plus grand nombre de vaccins pour nos concitoyens, mais aussi pour le reste du monde. Donc on peut le faire quand on s'en donne les moyens.
Mais on va voir dans quel domaine, justement. Mais vu de Bruxelles, à quoi ressemble aujourd'hui la France? Est-ce qu'elle est prête à tout ce qui est en train de se produire? Est-ce que vous la voyez forte de ses ressources, peut-être de quelques atouts, ou vous la voyez fatiguée, divisée, comme on dit, un peu somnambulique?
Non, la France est un grand pays, évidemment. La France est un pays majeur au sein de l'Union européenne. La France est l'un des moteurs essentiels.
D'accord, mais elle est divisée.
Européen.
Là, oui, mais après comme les présidentielles, il y a trois grands blocs.
Oui, Jean-Pierre Elkabbach, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Vous savez, c'est nos démocraties. On est d'abord, je voudrais le redire, peut-être de façon très, très, très calme, mais peut-être avec un peu de profondeur. Nous sommes la première réelle, vraie démocratie du monde libre. On est 450 millions de citoyens européens. Les États-Unis, c'est 310 millions. Bien sûr, il y a l'Inde, mais enfin, on voit ce qui se passe en Inde. Oui, on est la première démocratie, la plus grande, beaucoup plus importante que ne le sont les États-Unis. Ça nous donne effectivement un devoir. Et c'est vrai que d'être une grande démocratie, c'est pas facile. Alors, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je ne veux pas m'éterniser, mais enfin, nos auditeurs le comprendront. Donc voilà, nous sommes une grande démocratie. Il y a de la fragmentation dans les partis politiques, c'est exact. Mais pas uniquement en France. Partout en Europe. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une vision, il faut un élan, il faut un ciment. Notre ciment à nous, c'est l'état de droit. Et notre vision, on le sait, on en a parlé tout à l'heure.
Il faut tirer les oreilles des Hongrois et des Polonais. Oui, ça, on ne va pas entrer dans le détail.
Non, on tire les oreilles de personne. Oui. L'Europe, c'est 27 États membres avec leur histoire. Et il faut effectivement les mettre dans le mouvement.
Bon. Alors, on observe, Thierry Breton, vos efforts personnels pour nous sortir au mieux de la dépendance à l'égard de la Russie et de son gaz. Est-ce que l'Europe sera prête d'ici à la fin de l'année, comme je l'ai entendu?
D'abord, l'Europe a fait un mouvement majeur depuis le début de la guerre. 5 paquets de sanctions successifs, ça veut dire que l'Europe est unie, puisque pour ces paquets de sanctions, il faut l'unanimité. Ça veut donc dire qu'il y a une unité politique pour sanctionner la Russie, y compris les deux pays que vous avez évoqués. Bon, la Russie, la Pologne, on le sait, mais y compris la Hongrie, car la Hongrie a voté tout. Les sanctions. Oui. Mais deuxièmement, maintenant, on est au sixième paquet, on le dit, et ça a été le fait de s'exonérer des importations de pétrole.
D'accord.
Et c'était très important, à 92%. On laisse effectivement quelques pays qui sont encore trop dépendants. Parce que voyez-vous, les sanctions, ça sert à quoi?
À rien.
Écoutez,
non, pas à rien,
pardon.
Parce que ça l'affaiblit pas, mais il y a des conséquences aussi sur
pardon,
nous. À qui ça fait
ça
le plus de mal?
Pardon, mais
vous l'entendez de plus en plus
pardon,
dans les opinions.
Les sanctions, ça sert d'abord à ne pas apporter des moyens financiers à Vladimir Poutine. Parce que pour nous, Européens, et pour notre état de droit, c'est, et pour beaucoup d'entre nous, c'est intolérable. de financer cette guerre. Donc les sanctions, d'abord, ça sert effectivement à ne plus financer cette guerre. 92%,
très bien.
92% du pétrole qui ne va plus venir de Russie, c'est autant d'argent que l'Europe ne va pas
bien.
Donner.
Des milliards qu'ils n'auront pas.
Mais par contre...
Mais attendez, vous avez dit que ça va durer jusqu'en décembre.
Non,
est-ce que ça veut dire que pour vous à Bruxelles, vous pensez que la guerre va durer
d'abord,
jusqu'en décembre, c'est-à-dire encore des mois et peut-être en 2023?
D'abord, je veux juste aller au bout. Derrière, il faudra aussi, et je m'y prépare, s'exonérer aussi du gaz. Parce que le gaz russe, aujourd'hui, il faut le plus vite possible retrouver notre autonomie, car Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen. Il a tout fait depuis des années, et vous le savez, pour diviser l'Europe. On parle des vaccins, il a essayé de nous diviser avec son vaccin Sputnik qui ne marchait pas. On parle de l'état de droit, il a tout fait pour s'ingérer dans nos démocraties, avec Russian Today, avec Sputnik,
très bien,
sur le Brexit.
Dites-moi,
on le sait. Et maintenant, il utilise le gaz pour précisément nous diviser. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on s'en exonère le plus rapidement possible.
Mais plus rapidement,
pour combien
vous avez
de temps
dit décembre.
Non, je dis qu'encore une fois,
d'ici décembre,
c'est pour le fuel. Sur le gaz, je m'y prépare parce que sans ça, c'est lui qui va le couper. Il l'a déjà coupé en Pologne, il l'a déjà coupé en Bulgarie, il l'a déjà coupé aux Pays-Bas, en Finlande, vous venez de le dire, au Danemark. Donc,
dans votre esprit, ce serait quand?
Mais on est prêt.
Cette indépendance à l'égard du gaz russe.
On est prêt aujourd'hui. Si jamais c'était coupé, on a bâti un plan avec mes équipes pour pouvoir y répondre. Mais notre intérêt, parce que c'est aussi notre intérêt, il y a les sanctions, il y a notre intérêt.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans le plan? Qu'est-ce qu'il y a dans le plan?
Dans le plan, c'est l'augmentation du gaz naturel liquéfié. Vous savez, on importe 155 milliards de mètres cubes.
Beaucoup des États-Unis.
Non, on importe de Russie 155 milliards de mètres cubes par an. Là-dessus, il y a 50 milliards qui vont venir maintenant du gaz naturel liquéfié, en partie effectivement des États-Unis ou du Qatar. Deuxièmement, il y a 10 milliards supplémentaires sur les pipelines existants. Troisièmement, il y a l'accélération des éoliennes offshore et des panneaux photovoltaïques, c'est 25 milliards de mètres cubes. Quatrièmement, un sujet, et vous savez, on en a déjà beaucoup parlé, Jean-Pierre Alcabache, le fait qu'il va falloir prolonger certaines centrales nucléaires qu'on devait fermer. La Belgique a décidé de le faire. Trois centrales sont en discussion en Allemagne, c'est 12 milliards de mètres cubes supplémentaires. Ensuite, des économies d'énergie, 12 milliards de mètres cubes. Ensuite, parce qu'il va falloir sans doute pouvoir le faire, transformer des industries qui fonctionnaient essentiellement au gaz, au fuel, c'est 25 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et enfin, parce qu'il faudra peut-être y passer par là momentanément, l'augmentation et le fait de redémarrer des centrales à charbon pendant quelques temps.
C'est-à-dire
pour le compenser.
Centrales à charbon,
essentiellement en Allemagne.
La France en avait 4,
l'Allemagne en restait
qu'une, donc il faudrait qu'elle réouvre
peut-être,
les 4.
Peut-être, c'est le dernier élément à avoir. Mais donc, on a la panoplie. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre-temps, si jamais effectivement on remplit nos cuves, on a intérêt à le faire. Voilà, on fait des sanctions. Elle pénalise financièrement parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer à financer cette guerre qui est tout à fait intolérable aux frontières de l'Europe et qu'il faut continuer à aider les Ukrainiens dans ce combat et dans leur combat qui est un combat légitime contre cette agression. Il n'en demeure pas moins qu'on préserve aussi nos intérêts.
Et quand Zelensky prétend que la France, en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, humilie l'Ukraine?
Mais le président Zelensky a mené une campagne, au-delà de... Il faut rendre hommage
au
courage de son gouvernement, et puis à travers lui, au courage de tout le peuple ukrainien qui s'est quand même levé contre cette agression. Et vous le savez, on ne s'y attendait pas. Maintenant, il a effectivement mobilisé, et c'était ce qu'il devait faire, l'ensemble des pays occidentaux, parce que c'est essentiellement de ça dont il s'agit, pour venir à son secours en ce qui concerne précisément les besoins, on le sait, d'armement. Voilà, derrière le président de la République, il est comme nous. Il sait que la géographie, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas bouger. Donc, bien sûr qu'on souhaite que cette guerre se termine le plus rapidement possible, quand personne ne le sait. Moi, en tous les cas, dans ma responsabilité, je m'inscris dans un temps long, parce qu'il faut se préparer à un temps long.
Le temps long, c'est...
Le temps long, c'est plusieurs mois et peut-être même plus. Et en tout cas, moi, je me prépare à un temps long. C'est ma responsabilité. Si ça se finit avant, tant mieux.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que les particuliers réclament à la fois d'être protégés, que l'électricité ne soit pas trop chère, et en même temps, ils défilent contre le réchauffement du climat. Est-ce que vous leur dites qu'en ce moment, il y a une contradiction, il faudra s'y faire?
Non, je ne dis pas qu'il y a une contradiction. On est aujourd'hui dans une, c'est un autre sujet, mais on est dans une période inflationniste. Elle avait démarré, on le sait, y compris avec les prix de l'énergie, avant même le début des hostilités en Ukraine en février. On le sait. Donc on est dans cette logique inflationniste, et en particulier sur les coûts de l'énergie. Donc ça, il faut le traiter. Je tiens à noter malgré tout, et je parle en tant que commissaire européen, que la France est le pays qui, pour l'instant, c'est un fait, gère le mieux cette inflation, puisque l'inflation, elle est à 8,4-8,5%, la France est à 5,7%. On a des pays en Europe qui sont à plus de 10, voire plus de 15. Alors voilà, on gère bien cette inflation, mais on est inscrit dans cette logique-là. Aux États-Unis, on est bientôt à 10. Vous voyez, on est dans un monde.
On continue parce que je
change.
Sais.
Vous disiez le monde qui change. Ça, c'est un changement assez radical. Alors, il faut donc effectivement.
Pourquoi votre énergie est placée également pour la recherche des matières premières dites critiques? Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas ces matières premières, le lithium et toutes sortes de choses que je ne connais pas forcément, on arriverait à bloquer l'électronique dans tout le pays, dans toute l'Europe?
Oui, on se rend compte effectivement, on s'en est rendu compte pendant la crise du Covid. Lorsque je me suis occupé des vaccins, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de composants qui fabriquaient ces vaccins étaient fabriqués par nos usines qui étaient aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé de bloquer du jour au lendemain les exportations de nos usines en Europe. Parce qu'elle voulait garder ses composants pour leurs concitoyens américains tant que l'immunité collective n'était pas atteinte. J'ai donc dû faire la même chose en Europe. On a fait un rapport de force, on a rouvert les chaînes de valeur. Qu'est-ce que ça nous dit, Jean-Pierre Licavache? Ça nous dit effectivement qu'on est dans une nouvelle géopolitique. Cette nouvelle géopolitique, c'est ce que j'appelle la géopolitique des chaînes de valeur. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on va remettre une usine en Europe que tous les problèmes seront réglés. Bien sûr qu'on va le faire. Mais j'entends ceux qui disent il faut tout remettre en Europe et puis mettre des frontières derrière, des barrières derrière. Ça marche pas comme ça, le monde. Parce que c'est une usine, c'est le bout de la chaîne. Et que derrière, il y a effectivement, vous l'avez rappelé, un nombre important de composants. Vous faisiez allusion, par exemple...
Les semi-conducteurs, 90% à Taïwan, etc.
Vous faisiez allusion, par exemple, au lithium, et à un certain nombre d'éléments qui sont des éléments très importants pour les batteries. On a des usines de batteries, mais si on est dépendant, effectivement, que d'un seul pays, on est fragilisé. Donc nous sommes en train de mettre une dynamique en place pour multiplier nos sources d'approvisionnement et assurer la garantie de la sécurité d'approvisionnement sur tous ces domaines stratégiques, y compris en rouvrant des mines en Europe.
Je peux vous poser deux questions très rapidement. Poutine a proposé à deux fois de réduire progressivement les sanctions et lui livre du blé. Oui ou non ?
Le président Macky Sall est venu s'entretenir.
Sénégalais, président
de l'Union africaine en exercice il y a deux jours, et j'ai cru comprendre qu'il avait assuré le président Macky Sall qu'il allait lever lui-même le blocus qu'il crée lui-même pour le peuple africain. Et c'est une bonne chose. Bon, le blocus, c'est Poutine qui le met en place, personne d'autre.
Oui, mais si on baisse les sanctions, il paraît qu'il faut que je vous parle en 30 secondes, l'Amérique s'engage en train des Européens, il y a des armes, de l'argent, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre toute cette énergie dans le fait de pousser les deux parties, les deux belligérants, à négocier un cessez-le-feu et peut-être même un compromis? Parce que vous le dites vous-même, la guerre va durer, est-ce qu'il ne faut pas les pousser à s'accorder, au moins se mettre de chaque côté d'une table?
Je pense que beaucoup à Moscou sont en train de comprendre que c'est l'intérêt du peuple russe que de trouver un compromis. J'espère que Poutine saura l'entendre.
Et nous, on le soutient?
On soutient évidemment...
Cet effort de paix.
Oui. Encore une fois, la guerre, elle est entre l'Ukraine et la Russie. Et nous soutenons effectivement le fait que l'Ukraine et la Russie, le plus vite possible, se mettent à une table de discussion pour un cessez-le-feu, bien sûr.
Merci Thierry Breton, il faudra revenir parce qu'il y a tellement de sujets. J'aurais voulu parler de la défense et la souveraineté, des rapports avec les États-Unis, la Russie, ne pas être dépendant ni de l'un ni de l'autre.
Ce sera pour une prochaine fois, assurément. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à vous Thierry Breton.